Jane Austen, La Nouvelle Emma, tome deuxième, chapitre 14. Ces deux messieurs, en entrant dans la salle d'assemblée, avaient besoin de faire un échange. M. Elton devait prendre un air moins jovial et M. John Knightley oubliait sa mauvaise humeur. M. Elton devait sourire moins souvent et M. Knightley davantage pour convenir au lieu où il se trouvait. Emma seule pouvait se livrer à son naturel et se montrer aussi heureuse qu'elle l'était réellement. C'était pour elle un vrai plaisir que de se trouver avec M. et Mme Weston. Elle aimait beaucoup le mari et il n'y avait personne au monde à qui elle s'ouvrit avec moins de réserve qu'à sa femme, personne à qui elle put raconter, avec la conviction d'être écoutée et comprise, toujours intéressante et intelligible, ses petites affaires, ses arrangements, les peines qu'elle souffrait et les plaisirs qu'elle goûtait auprès de son père. Elle ne pouvait rien dire d'Hartfield qui n'intéressât Mme Weston, et une demi-heure de tête-à-tête employée à parler de ses petites affaires d'où dépend le bonheur de la vie privée fut la première satisfaction dont elle jouirent. Le plaisir qu'elle venait de goûter était peut-être supérieur à tout ce que la visite entière leur en procurerait, quoique cette demi-heure n'en fît pas partie. Mais la vue seule de Mme Weston, son sourire, sa voix, tout cela ravissait Emma. Elle prit le parti de songer le moins possible aux singularités de M. Elton, à tout ce qui pourrait lui déplaire, et de s'amuser de tout. La maladie d'Henriette était connue. Il y avait assez longtemps que M. Woodhouse était arrivé sain et sauf et assis devant un bon feu pour en avoir fait l'histoire, la sienne propre, celle d'Isabelle, l'arrivée d'Emma. Enfin, avant celle du reste de la compagnie, il avait terminé son récit par observer qu'il était charmé que le pauvre Jacques fût venu pour voir sa fille. Mme Weston, qui, jusque-là, lui avait prodigué tous ses soins, le quitta pour aller recevoir Emma. Emma avait formé le projet d'oublier M. Elton pour quelque temps. Mais elle eut le chagrin de voir, lorsque tout le monde fut assis, qu'il s'était placé à côté d'elle. Elle ne pouvait sauter de l'esprit l'étrange insensibilité qu'il montrait pour Henriette, puisqu'il s'efforçait d'attirer son attention par ses regards et ses paroles. Au lieu de l'oublier, sa manière de se conduire était telle qu'elle ne put s'empêcher de se rappeler la suggestion de son frère et de se demander « Mon frère aurait-il raison ? Cet homme commencerait-il à porter sur moi les affections qu'il avait pour Henriette ? Cette idée est absurde, insoutenable !» Cependant, il prenait tant de soin qu'elle n'eût pas froid, paraissait si attentif pour son père, si charmé de Mme Weston, et enfin se mit à admirer ses desseins avec autant de zèle que d'ignorance, que cette conduite pouvait donner à penser qu'au moins il jouait le rôle d'amoureux. Cette idée la chagrina tellement qu'elle fut obligée de se contraindre pour être simplement polie avec lui. Pour son compte particulier, elle ne pouvait pas commettre une incivilité, et pour celui d'Henriette, espérant que les choses s'arrangeraient pour le mieux, elle devait avoir des égards. Mais c'était pour elle une contrainte, et d'autant plus pénible que, d'un autre côté, au plus fort de l'impertinent éloge de M. Elton, on parlait de choses qu'elle aurait voulu entendre. Elle avait compris seulement que M. Weston donnait quelques renseignements sur son fils, et ses paroles avaient frappé son oreille. « Mon fils est Frank ? Et mon fils ?» D'après quelques monosyllabes, elle pensa qu'il annonçait la prochaine arrivée de son fils. Mais, avant d'avoir pu faire taire M. Elton, le sujet sur lequel on parlait avait été épuisé, de manière à ce qu'il eût été maladroit à elle de le renouveler. Il est bon de remarquer ici que, quoiqu'Emma eût formé la résolution de ne jamais se marier, il y avait néanmoins, dans le nom de Frank Churchill, quelque chose qui l'intéressait vivement. Elle avait souvent pensé, particulièrement depuis le mariage de son père avec Mlle Taylor, que si jamais elle se mariait, il était le seul homme qui pût convenir à son âge, à son caractère et à sa condition. Il semblait, par la relation qui existait entre ces deux familles, qu'il lui appartenait de droit. Elle était certaine que tous ceux qui connaissaient les deux familles avaient déjà pensé à ce mariage. Elle ne faisait aucun doute que M. et Mme Weston n'y eussent songé. Et quoiqu'elle n'eût aucune intention de changer sa situation, qui lui semblait préférable à toute autre de toute manière, néanmoins elle avait la plus grande curiosité de le voir, le désir de le trouver aimable, même de lui plaire jusqu'à un certain point. Enfin, l'idée que ses amis les regardaient comme devant être unis lui causait une espèce de plaisir. Avec de pareilles sensations, les empressements de M. Elton venaient mal à propos. Mais elle eut la satisfaction de paraître très polie, quoiqu'elle fût de très mauvaise humeur, et de penser que le reste de la journée ne se passerait pas sans qu'on remît le même sujet sur le tapis. Le bon cœur de M. Weston lui en était un sûr garant. Elle ne se trompa pas, car, heureusement délivrée de M. Elton et placée à table à côté de M. Weston, celui-ci profita du premier moment qu'il eut, après avoir fait les honneurs de sa table, pour lui dire « Il ne faudrait que deux personnes de plus pour que le nombre des convives fût juste ce qu'il doit être. Je désirerais avoir deux personnes de plus, votre jolie petite amie Mademoiselle Smith et mon fils. Alors, je dirais, nous sommes complets. Je ne crois pas que vous m'ayez entendu dans le salon lorsque j'annonçais que nous attendions Franck. J'ai reçu une lettre de lui ce matin. Dans 15 jours, il sera ici. » Emma lui répondit qu'elle l'en félicitait de tout son cœur, qu'elle pensait comme lui que la présence de M. Frank Churchill et de Mlle Smith rendrait la partie complète. Dès le mois de septembre dernier, continua M. Weston, son désir était de nous venir voir. Il en parlait dans toutes ses lettres, mais il n'est pas maître de son temps. Il doit plaire à des gens qui ont le droit de tout exiger de lui, et à qui, entre nous, pour y parvenir, il faut faire de grands sacrifices. Mais, à présent, je suis très persuadée que nous le verrons vers le 15 du mois de janvier. Quel bonheur pour vous ! Madame Weston a tant envie de faire sa connaissance qu'elle sera presque aussi heureuse que vous. Oui, elle le serait, mais elle craint que son départ ne soit encore différé. Elle n'est pas aussi sûre de son arrivée que je le suis. Mais elle ne connaît pas le terrain aussi bien que moi. Voici le cas. Ceci est tout à fait entre nous, je n'en ai pas ouvert la bouche dans le salon. Il y a, vous savez, des secrets dans toutes les familles. Voici donc de quoi il est question. En janvier, il y a une quantité d'amis invités à Escombe, et l'arrivée de Franck dépend de ce que cette partie soit remise à un autre temps. Si elle ne l'est pas, Franck ne peut s'absenter. Mais je sais qu'elle sera remise parce que cette partie est composée d'une famille qu'une femme de grande conséquence à Enscombe ne saurait souffrir. Et, quoi qu'il soit, à ce qu'on pense, nécessaire d'envoyer une invitation une fois tous les 2 ou 3 ans, cependant, quand le jour fixé approche, on remet toujours l'assemblée sous un prétexte quelconque. Je n'ai pas le moindre doute sur l'événement. Je suis aussi certain de voir Franck ici avant le 15 janvier, que je suis sûre d'y être moi-même aujourd'hui. Mais votre bonne amie, faisant signe de regarder au haut bout de la table, a si peu de caprices et en a si peu vu à Hartfield qu'elle ne peut pas en calculer les effets comme j'ai été à même de le faire pendant longtemps. Je serais fâchée qu'il y eût le moindre doute sur l'arrivée de M. Frank, répliqua Emma. Mais je suis disposée à être de votre avis, M. Weston. Si vous croyez qu'il vienne, je le croirai aussi, car vous connaissez Escombe. Oui, j'ai quelques raisons de le connaître, quoique je n'y ai jamais été de ma vie. C'est une étrange femme, mais je ne me permets jamais de mal parler d'elle à cause de Franck, car je crois véritablement qu'elle l'aime beaucoup. Je m'étais accoutumée à penser qu'elle ne pouvait aimer qu'elle-même, mais elle a toujours eu des bontés pour lui. À sa manière, il est vrai, il fallait lui passer ses caprices, ses fantaisies, et ne faire absolument que ce qui lui plaisait. Et ce n'est pas un petit honneur à Franck, suivant moi, d'avoir gagné son affection. Car, quoique je ne confierai qu'à vous ce que je vais dire, elle a le cœur aussi dur qu'une pierre et un caractère diabolique. Le sujet de cette conversation plaisait tant à Emma qu'elle l'a repris avec Mme Weston, aussitôt qu'elles eurent quitté la table pour passer dans le salon. Elle lui fit son compliment observant cependant que la première entrevue devait un peu l'alarmer. Madame Weston avoua que cela était vrai, mais ajouta qu'elle serait charmée d'éprouver l'anxiété que devait causer une première entrevue au temps où on disait qu'elle était fixée. Je n'ai pas tant de confiance que M. Weston, et je crains qu'il n'arrive pas. M. Weston vous a sans doute dit où l'affaire en était. Oui, il semble que tout dépend de l'humeur bonne ou mauvaise de Mme Churchill. C'est ce qu'il y a de plus certain dans le monde. Ma chère Emma, répliqua en riant Mme Weston, quelle certitude y a-t-il dans un caprice? Et se tournant vers Isabelle qui venait d'entrer, vous saurez, ma chère Madame Knightley, que nous ne sommes pas si assurés de l'arrivée de M. Frank Churchill que son père semble l'être. Elle dépend entièrement du bon plaisir de sa tante, enfin de son caractère. À vous, à mes deux filles, je puis confier la vérité. Madame Churchill commande à Enscombe. C'est une femme d'un étrange caractère, et le départ de Frank dépend absolument d'elle. Oh, Madame Churchill, tout le monde la connaît, dit Isabelle, et je vous assure que je ne pense jamais à ce pauvre jeune homme sans en avoir pitié. C'est une chose affreuse que de passer sa vie avec une femme d'un mauvais naturel. C'est ce qu'heureusement nous n'avons pas éprouvé. Mais une pareille vie doit être bien misérable. Quel bonheur qu'elle n'ait jamais eu d'enfant. Pauvre petite créature, qu'elle les aurait rendues malheureuses. Emma eut désiré d'être seule avec Madame Weston. Elle en eut appris davantage, car elle lui parlait plus ouvertement qu'elle ne faisait à Isabelle, et pensait qu'elle ne lui cacherait rien relativement au Churchill, excepté les vues que son imagination lui faisait supposer qu'on avait sur le jeune homme. Mais pour le moment, on en pouvait dire davantage. Monsieur Woodhouse suivit bientôt les dames au salon. Il ne pouvait supporter de rester longtemps à table. Il n'aimait pas plus le vin que la conversation, et ce fut de grand cœur qu'il vint joindre celle avec qui il était toujours fort à son aise. Tandis qu'il causait avec Isabelle, Emma trouva l'occasion de dire à Madame Weston « Ainsi, vous n'êtes donc pas certaine de recevoir la visite de votre fils ? J'en suis fâchée. La première entrevue vous inquiète sans doute. » Et le plus tôt qu'elle aura lieu sera le mieux pour vous. Oui, et chaque délai en fait craindre d'autres. Quand bien même la visite de la famille des Braithwaite serait remise à un autre temps, je craindrais encore qu'on ne trouve à quelque excuse pour tromper notre attente. Je ne crois pas qu'il ait aucune répugnance à venir, mais je suis sûre que les Churchill désirent le garder pour eux seuls. Ils en sont jaloux au point qu'ils trouvent mauvais qu'il ait des égards pour son père. Enfin, je ne suis pas disposée à croire à son arrivée, et je désirerais que M. Weston n'y eût pas tant de confiance. Il faut qu'il vienne, s'écria Emma. Il faut qu'il vienne, ne fût-ce que pour rester 2 jours. Et il est difficile de concevoir qu'un jeune homme ne prenne pas sur lui une si petite liberté. Une jeune femme, si elle tombe en de mauvaises mains, peut être chagrinée. On peut lui empêcher de voir les personnes qu'elle aime. Mais on ne peut comprendre qu'un jeune homme soit tenu de si près qu'il ne lui soit pas possible de passer 8 jours chez son père si cela lui plaît. Il faudrait être à Enscombe, connaître la famille, avant de décider ce qu'il pourrait faire, répliqua Madame Weston. Il est bon de ne pas juger légèrement les individus d'une famille quelconque. Mais celle d'Enscombe, je pense, ne peut pas être jugée d'après les règles générales. Cette femme est si déraisonnable et tout le monde lui obéit. Mais elle aime tant son neveu, elle lui est si attachée. Maintenant, d'après ce que je sais de Madame Churchill, il serait très naturel que, ne faisant aucun sacrifice pour le bonheur de son mari, à qui elle doit tout et qui est au contraire victime de ses caprices, elle soit à son tour gouvernée par son neveu, à qui elle ne doit rien. Ma très chère Emma, douée d'un si heureux naturel que vous l'êtes, ne prétendez pas parler d'un très mauvais caractère, ni établir des règles pour en juger. Il faut l'abandonner à lui-même. Je ne doute pas que Franck, de temps à autre, n'ait de l'influence sur elle. mais il lui est tout à fait impossible de savoir à l'avance quand il en aura. » Emma, après l'avoir écouté, dit froidement « Je ne serai satisfaite que lorsqu'il arrivera. » « Il peut avoir beaucoup d'influence sur elle en certaines occasions, » continua Madame Weston, « mais aucune en d'autres. Et parmi ces dernières, il n'est que trop probable que la permission de venir nous voir ne tienne le premier rang. »